Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute.
Bonjour Alison.
Bonjour Séverine.
Je suis très contente de faire ce match retour. Tu m'avais invitée dans ton podcast et aujourd'hui c'est moi qui t'invite. Comment vas-tu ?
Je vais bien. Alors je suis un petit peu intimidée d'être de l'autre côté du micro, mais ravie en effet qu'on puisse un peu échanger les rôles. Je trouve ça très sympa comme démarche. Merci pour l'invitation en tout cas.
Ah, moi aussi. Et puis j'ai hâte d'avoir toutes les nouvelles avancées. Donc vous avez déjà entendu Alison dans l'épisode 110, qui était la retranscription de son interview, donc quand elle m'avait invitée sur son podcast qui s'appelle Maternelle dégenrée. Mais on va reparler de tout ça, bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours perso, ton parcours pro, ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui ?
Alors, je m'appelle Alison Allard. Je suis belge et dans mon histoire, ça compte. Donc, en fait, j'ai étudié en tant qu'institutrice maternelle et c'est surtout pour cette partie de l'histoire que ça compte. En fait, en Belgique, ou bien vous étudiez institutrice maternelle, instituteur, ou bien instituteur, institutrice primaire. C'est des études en 3 ans et c'est vraiment des études qui sont différentes. C'est assez professionnalisant, on est très vite en stage. Et donc, moi, j'ai choisi de faire institutrice maternelle comme ma mère. Et on a une famille d'instit. Et puis, suite à ces 3 ans d'études, en fait, je suis passionnée de pédagogie, qui fait que j'ai fait un master en sciences de l'éducation. Et puis, j'ai enseigné. Et en fait, j'ai quitté complètement l'enseignement en arrivant ici à Marseille, il y a maintenant 4 ans. Et j'ai décidé d'être serveuse. C'était une expérience très chouette. J'ai beaucoup ri. Mais le confinement a fait qu'en fait, on a été complètement arrêtés pendant des mois. Ça m'a permis de me questionner sur ma pratique en tant qu'enseignante, sur mon choix de changement d'orientation professionnelle. Parce que moi, en tout cas, être enseignante, ça faisait complètement partie de mon identité. Et donc, je me suis questionnée personnellement là-dessus, puis professionnellement. Et ça m'a amenée à créer Maternelle dégenrée, qui est un podcast qui veut questionner les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Parce que je me suis rendue compte qu'en fait, ce que j'enseignais n'était pas en adéquation, pas vraiment en lien avec toutes les valeurs que je portais et que je porte encore actuellement. Et donc, j'ai décidé de partir à la recherche de réponses, quoi. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'il y a ce podcast qui fait maintenant entièrement partie de ma vie. C'est un podcast d'interview. Et puis, avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui m'ont parlé de leurs expériences, de leurs bons plans, je me suis dit, il faut faire, il faut écouter parler et prendre tout ce qui est bon, et puis après, il faut aussi se mettre en route et tester des choses. Et donc là, ça fait depuis 1 an que je suis formatrice. Je m'intéresse principalement à l'égalité des genres, principalement à l'école maternelle. C'est là où moi, je me sens professionnelle. Et puis, je m'attarde aussi à tout ce qui est éducation à la vie affective et sexuelle. En fait, pendant les différentes interviews, je me suis rendu compte de l'importance de mettre des mots, peu importe le sujet en réalité, mais d'expliquer aux enfants, parfois de façon très claire, qui peuvent parfois même paraître un peu naïves aux yeux des adultes. Mais moi, j'aime ça, j'aime mettre des mots sur les choses. Et c'est comme ça que sont nés les ateliers COCOS, dont je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et là, je les anime et voilà un peu ce qui fait partie de ma vie en ce moment, le podcast, les ateliers COCOS et puis le fait de porter ces ateliers. C'est un peu mon message en ce moment, c'est un peu mon travail militant de me dire et d'essayer de dire aux autres, parlons aux enfants le plus tôt possible.
Qu'est-ce que je te rejoins complètement sur ce sujet-là. Tu t'es vraiment spécialisée sur la question du genre. Est-ce que tu te souviens les premières réflexions? Comment ça t'est venu en classe peut-être avec des réflexions des parents ou des collègues? Qu'est-ce qui t'a touché la première fois sur cette question du genre?
Eh bien, tu vas trouver ça peut-être un petit peu drôle, Séverine, mais en fait, en tant qu'instite, je ne me suis jamais questionnée. Pendant toute ma pratique, je n'ai jamais, mais alors je crois, jamais questionné les stéréotypes dans ma classe. Et c'est ça qui en était encore plus déroutant pour moi. Et c'est pour ça que ça faisait encore plus de sens, en fait, et de moi montrer mes faiblesses dans ce podcast, de dire, bah, en fait, c'est moi qui pars en recherche. Je ne connais rien, moi. Je vais à la recherche de personnes qui s'y connaissent. Je ne me posais pas la question, en fait. Je faisais. J'étais avec mes élèves et je crois que je suis aussi quelqu'un qui vient du monde de l'enseignement. Donc, je suis aussi une bonne élève. Donc, je respectais ce que voulaient dire les programmes. Je l'ai questionné, heureusement, parce que ça, c'est une compétence que je trouve très importante chez les enseignants et enseignantes. Je ne questionnais pas les stéréotypes de genre. Il y avait bien sûr des moments qui m'avaient quand même irritée. Parce que je porte des valeurs que je pense féministes depuis que je suis adolescente. Et donc, par exemple, je me souviens très bien, spectacle de fin d'année, après une année entière à avoir entendu tous les élèves de ma classe à chanter La Reine des Neiges, parce que c'était l'époque où La Reine des Neiges, on n'entendait que ça, à leur annoncer, j'avais l'impression de leur faire un cadeau, qu'en fait, on allait chanter cette chanson qu'ils adoraient au spectacle de fin d'année. Et là, de ressentir en fait la crainte de certains garçons de ma classe du fait de devoir chanter cette chanson devant les autres. C'est vrai que ça, je savais déjà que ça m'irritait, mais je ne savais pas pourquoi. Ou alors quand on avait un tas de ballons dans la classe et que je les distribuais pour faire une activité ou une autre, et qu'un petit garçon ne voulait pas un ballon rose, ça m'irritait, mais je ne savais pas dire pourquoi. Donc voilà, dans ma pratique enseignante, non, ça ne m'a pas choquée. C'est vraiment après. Pendant le confinement, quand j'ai aidé une copine, une ancienne collègue, à créer une activité, et là, c'était une activité artistique où vraiment, je suis allée sur Google et je me suis dit, mais en fait, ils citent que des hommes. Waouh, c'est quoi ce problème, en fait? Comme s'il n'y avait aucune artiste dont on pouvait s'inspirer pour parler aux enfants de maternelle. Femme? Waouh, c'est quoi ce délire? Et en fait, mais c'est ça. Et là, en cherchant, en fait, il y avait très, très peu, heureusement, depuis... Il y a quand même un peu plus, depuis 2-3 ans. Ça, c'est très chouette. Et c'est là où, en fait, j'ai tout remis en question. Et après, j'ai repensé à toute ma pratique. Moi, par exemple, j'adore exploiter tout ce qui est musique classique avec les élèves. Et donc, les seuls affichages de ma classe étaient un tas d'hommes de musique classique, quoi. Mais que des hommes. Incroyable. Je ne pense pas qu'il y ait une seule représentation de femme dans ma classe. Donc, voilà. Et donc, c'était à la fois passionnant et à la fois perturbant de se rendre compte que moi, j'avais transmis un tas de stéréotypes sans faire exprès.
Donc, tu as revisité un peu ta pratique en étant sortie du monde de l'éducation pure et dure, quoi.
Complètement. Je pense que parfois, quand on a la tête dedans, c'est pas évident de voir tout, en tout cas.
Non, et puis, il y a tellement de thématiques à aborder. Hein. C'est pas précisé, en gros, dans le vivre ensemble. Il y a peut-être une ou deux lignes aussi en Belgique sur la question d'égalité filles-garçons ou même pas. Pas spécialement.
C'est comme en France, en réalité. Donc, on a vraiment, comme tu dis, deux lignes dans le programme. Et s'il n'y a pas une attention portée de la part de l'enseignant, l'enseignante ou de la direction ou du projet d'école, on peut franchement passer à côté. Mais comme plein d'autres sujets qui sont tout aussi importants.
C'est ça. Donc, c'est l'intention de l'équipe et l'intention du professionnel qui va jouer sur la prise en compte de ces clichés, de ces stéréotypes. Et puis, surtout de la posture. Hein, tu en parles beaucoup dans ton podcast. C'est vraiment la posture de l'adulte qui va être très modélisante vis-à-vis de l'enfant. Lui-même ne se rend pas compte qu'il y a une problématique autour de ça. Il ne se sent pas du tout concerné. Qu'est-ce que tu as eu comme retour de tes questions par les experts sur le podcast, sur ton travail?
Tous et toutes, on se rend bien compte que cette tranche d'âge des 3-6 ans n'est pas une tranche d'âge qui est beaucoup étudiée. Donc, je dis toujours que le podcast Maternelle Dégenrée, c'est un podcast niche. En fait, on écoute Maternelle Dégenrée que si on est intéressé. Donc, c'est très facile, en fait, pour moi de plaire aux personnes qui écoutent. Parce que, en fait, si les personnes n'apprécient pas le contenu, elles n'écoutent juste pas. Donc, j'ai la chance d'avoir des retours que positifs. Et je pense que les personnes qui se questionnent, bah, elles sont ouvertes au questionnement. Et là où moi, tu en parlais juste avant, j'ai presque été déçue, c'est que j'aurais voulu avoir une recette magique, tu sais. Vraiment, ouais, ce truc de la bonne élève, j'avais envie d'avoir une réponse à ma question. Et puis... dire à tout le monde, bah, voilà, il faut faire ça et c'est facile. Mais non, en fait, c'est bien plus intéressant. C'est bien plus porté sur la posture et sur les questionnements de l'adulte, à mes yeux en tout cas, dans ce que je trouve comme réponse en ce moment.
Moi, j'ai ressenti ce même moment de doute sur la question des émotions à la maternelle, et notamment pour les 2 ans. Et je me suis rendu compte que personne autour de moi n'avait de clé pour comprendre le système émotionnel. Et ça m'a frustrée, en effet, alors que pour moi, ça paraissait important. Donc, je peux mettre en parallèle ce décalage que tu as senti sur le stéréotype de genre et sur l'égalité filles-garçons. J'ai eu ce même questionnement sur les émotions quand j'étais encore en maternelle.
Oui.
Et les bénéfices que les gens qui te découvrent par le podcast, quels sont les retours des gens qui ne s'étaient pas questionnés sur ce sujet ?
Pour les personnes qui ne se sont pas questionnées sur le sujet, je pense que ça leur permet d'enfiler les lunettes du genre, comme on dit souvent. Ça, c'est une sorte de prise de conscience. Je crois que dans leur tête, ça fait « Oh zut, ouais, ça existe en fait ». Et ils voient, et elles voient après plein de choses. Et ça, c'est assez déroutant. Pour les personnes qui ont déjà pris conscience et qui découvrent le podcast, je crois que ça rassure. C'est comme avoir des alliés autour de soi et se dire « Ok, je ne suis pas folle, je ne suis pas fou. En fait, il n'y a pas que moi qui pense comme ça. On est plein d'autres. Et surtout, je ne suis pas toute seule, tout seule à vouloir mettre des choses en place. En tout cas, c'est ce que j'espère. »
Oui, tu crées une communauté d'appartenance autour de ces thèmes et tu mets une importance sur cette question qui n'est pas encore beaucoup dans les médias, qui n'est pas encore beaucoup dans les formation de prof, en espérant qu'un jour ce soit inclus peut-être dans la formation des enseignants. Est-ce que c'est un rêve que tu chatouilles doucement
ou... Ouais, 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 vraiment, c'est un rêve, bien sûr.
Ça ferait du bien à tout le monde. Et ceux qui sont passés par l'éducation nationale, et les parents et les enfants, tout le monde y gagnerait.
Je pense que viser plus d'égalité, c'est ce qu'on veut tous en fait. Je pense que les adultes sont terriblement bienveillants envers les enfants. Tous les adultes veulent le meilleur pour les enfants. Et on ne prend pas tous et toutes les mêmes chemins pour tirer les enfants vers le meilleur. Mais je suis persuadée qu'on veut le meilleur pour les enfants. Et moi, c'est ma façon de voir le meilleur, en tout cas.
Est-ce qu'il y a une phrase d'un expert ? Tu en as reçu à peu près 25 maintenant ?
Oui, c'est ça.
Donc, sur les 25 experts que tu as reçus pour ton podcast, est-ce qu'il y a une phrase qui t'a vraiment chamboulée en disant « Waouh, j'ai encore un déclic à ce moment-là » malgré toutes les recherches que j'ai faites sur ce thème?
Oh là là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. En fait, j'apprends, je dis souvent, hein, le podcast, enfin, Maternelle dégenrée, c'est vraiment un podcast égoïste. Hein. J'interroge les gens parce que moi, je me questionne. C'est vraiment pour moi-même. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont interloquée. La dernière, vraiment, auquel je pense, c'est avec Dylan Racana. Quand j'ai lu son mémoire, là, il parenthèse, et en fait, c'est de lire, parce que moi, maintenant, bah, je suis formatrice, je travaille sur ces questions-là, c'est de lire qu'en fait, bah, les formations, ça n'aide pas spécialement tous les professionnels de l'éducation à mieux faire. Ça m'a vraiment irritée, et j'adore les moments où je suis irritée, parce que c'est là où vraiment on remet en question sa pratique.
Et donc, voilà. Ça gratte.
Voilà, exactement. Donc là, ça m'a vraiment questionnée.
Oui, j'ai entendu cet épisode et j'ai trouvé ça très humble et très honnête de préciser que malgré tout, ces recherches, c'était toujours pas redescendu dans les formations des maîtres. C'est quand même assez impressionnant. Il y a des scientifiques qui font des études, il y a des conclusions qui ont été tirées. Néanmoins, c'est toujours pas dans les formations initiales d'enseignants.
Moi, j'y crois.
Oui, j'y crois aussi. Et j'espère qu'on mérite mieux pour les élèves que ce qu'on faisait actuellement, en tout cas ces 20 dernières années, parce qu'il y a des choses à creuser, et mettre
bien
les mains dedans. Donc toi, tu as évolué au cours de ces interviews, et quand on s'était rencontrés l'année dernière, tu envisageais déjà la création de rencontres en direction des familles, avec les enfants. Ça s'est affiné en un an. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton intention d'atelier Cocose ?
Bien sûr. En fait, dans plusieurs des interviews, on a parlé du corps, des parties intimes, du consentement, des stéréotypes. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'essaie des trucs, quoi. Il faut y aller, il faut... Et puis, j'ai quelques copines qui m'ont expliqué qu'elles n'avaient pas toujours facile à expliquer comment on fait les bébés à leurs enfants. Je me suis dit, bah, je pense que si je travaille, il y a moyen que je trouve des solutions, que j'essaye, quoi. Et donc, j'ai beaucoup travaillé pour créer 5 ateliers que j'ai donc appelés les ateliers Cocose. Il y en a un premier sur les émotions, un deuxième sur toutes les parties du corps, dont les parties intimes. Le troisième, c'est sur le consentement. Le quatrième, sur comment on fait les bébés. Et le dernier, sur les différents types de relations. L'idée, en fait, c'est vraiment une sorte d'introduction à l'éducation à la vie affective et sexuelle. En réalité, je suis partie de ce qui se fait chez les plus âgés, que ça soit dans les programmes qui sont disponibles sur Internet en France, que ça soit dans les programmes belges, mais aussi au Canada et en Suisse, où j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu plus de matière à découvrir. Et il y a beaucoup d'associations en réalité qui travaillent là-dessus. Donc, je suis partie de tout ça et j'ai vraiment essayé de l'adapter pour une tranche d'âge que je connais, donc les 3-6 ans, de manière à ce que ça soit le plus fun et léger possible. L'idée, c'est de le vivre avec ou devant les adultes, plutôt devant les adultes qu'avec les adultes. Et donc, c'est de faire participer les enfants, que ce soit eux et elles au centre des ateliers, mais en fait, d'avoir l'œil de l'adulte pour pouvoir ou bien répéter des choses, ou bien apprendre des choses, ou au moins soutenir l'apprentissage qui est réalisé.
Donc, les parents sont présents pendant l'atelier, dans le même lieu que les enfants. Ils entendent tout ce que tu présentes, toutes les chansons, toutes les activités, et ils pourront relayer ensuite le contenu de ce qu'ils ont compris, filtré, avec peut-être des intentions un peu différentes des tiennes, mais tu espères que le relais se fasse d'un atelier à l'autre, en dehors de l'événement.
C'est exactement ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit au ce qu'on dit « one shot ». Bien sûr, ça peut marcher. Il y a plein de choses qui sont en « one shot » qui marchent terriblement. Mais je suis persuadée que c'est dans la répétition qu'on peut vraiment approfondir un apprentissage. Et donc, les ateliers Cocos, il y a deux formes de prestations. Il y a la première que j'ai explorée en premier. Moi, c'est l'atelier, comme tu dis, parents-enfants. Ça veut dire que les enfants viennent avec un ou leurs deux parents, ou du moins avec minimum un adulte, on va dire, pour participer à l'atelier. Et dans ce cas, les adultes ne sont pas invités à prendre la parole. Il y a des feuilles de brouillon et des bics qui sont disponibles. Si ils ou elles veulent écrire quelque chose pour qu'on en parle à la suite de l'atelier, je suis complètement ouverte à la discussion, mais ils ne sont pas au centre de l'atelier. Ce sont les enfants qui sont au centre de l'atelier. Et en effet, c'est vraiment de donner des clés aux enfants et donner des clés aux adultes, parce que pendant l'atelier, je vais lire des histoires, on va faire des rondes, je vais faire des petits exercices, on va chanter des chansons. Et ça permet que lorsqu'on rentre à la maison, si on en a envie en tant qu'adulte ou si l'enfant en a envie, eh bien, on puisse refaire, en reparler et aussi montrer que la conversation est ouverte, que ce qu'on a appris pendant l'atelier, eh bien, c'est d'accord dans l'éducation qu'on donne à notre enfant. Et puis, il y a un deuxième aspect, donc ça, c'est en module enfant-parent, et il y a aussi lorsque j'anime en groupe, et donc dans ces cas-là, par exemple, là, en ce moment, j'anime pas mal en maison pour tous, eh bien, je demande à ce que les animatrices soient présentes pour la même raison, pour aussi transmettre d'une certaine manière, pour aussi qu'on puisse répéter si on se sent à l'aise avec ça. Et j'essaye, dans la mesure du possible, d'inviter les parents avant de rencontrer les enfants s'ils ne sont pas présents, pour aussi donner l'idée que bah, déjà, il y a cette transmission, mais aussi vraiment, ouais, donner que ça soit... Je pense qu'on en avait parlé ensemble pendant l'interview qu'on a enregistrée, c'est qu'on fasse équipe, quoi. Tous et tout ensemble pour le même projet qui est bah, d'amener les enfants à être les personnes qu'elles doivent être, quoi.
Oui, je parle souvent de coéducation et de transmission commune et parallèle. Les parents ont cette mission aussi de donner des informations précises à leurs enfants concernant ces thèmes hein, que tu abordes, toi, les émotions, le consentement, l'éducation sexuelle et puis la pose de limites. Hein, on ne l'a pas dit, mais tu parles aussi de poser des limites. Et quand ils sont en collectif, il y a ce tabou de est-ce que ça va être bien compris, est-ce que ça va être bien mené, est-ce que les mots vont être adaptés au public cible. Et donc, certains parents ont émis quelques craintes sur le contenu où tu les sens plutôt confiants dans cette transmission d'atelier.
Lorsque les parents viennent, donc lorsque je suis en atelier enfant-parent, les parents sont toujours convaincus avant de venir. Ce sont des parents qui font le choix de venir à l'atelier parce qu'ils ont ou elles ont un intérêt pour ce sujet. Ça peut être parce qu'ils ou elles n'ont pas de réponse à donner à leurs enfants et donc ben, ils tentent de chercher des réponses, ou bien parce qu'on veut répéter un apprentissage qui est déjà donné à la maison. Lorsque j'interviens dans des groupes, alors là, c'est quand même différent. Et c'est là que moi, je me plais aussi à expliquer l'intérêt. Et donc, souvent, je vois les parents un peu hésitants. On se demande ce que je fais là. Pourquoi est-ce qu'on aborde ces sujets avec les enfants? Parfois, il y en a certains qui me disent on a l'impression déjà le faire. Parfois, il y en a certains qui ne disent rien. Donc, c'est assez déroutant. Et moi, lorsque je leur présente, l'idée, ce n'est pas de fondamentalement les convaincre. En tout cas, c'est d'expliquer ma démarche. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, je suis repartie avec des parents souriants.
C'est super intéressant d'avoir ton retour sur ces premières expériences-là. Tu as mené combien d'ateliers cette année déjà ? Dans des librairies, j'avais vu sur les réseaux.
Librairies, magasins de jouets, donc ça c'est en ce qui concerne les parents-enfants. Et alors en groupe, j'interviens dans les maisons pour tous et les ACM. Mmh. Donc dans tout ce qui, je crois, enfin nous en Belgique on appelle ça extrascolaire, vous appelez ça plutôt centre aéré, je pense.
Oui, en périscolaire. Tu as quel accueil des professionnels qui te reçoivent ? Est-ce qu'ils ont envie de continuer après ton passage ? Comment ils vivent ça, eux ?
En fait, souvent, les adultes sont assez étonnés par la simplicité. J'espère pas la simplicité dans le terme négatif, mais plutôt dans la façon positive et légère d'aborder les questions qui, parfois, en tant qu'adultes, nous paraissent lourdes. Mais en fait, tout d'un coup, le consentement, on le chante avec ma mascotte Wistiti, qui est un singe. Et en fait, c'est très drôle. Et en fait, pour parler de comment on fait les bébés, on parle d'un spermatozoïde qui rencontre un ovule et pas du tout de relation sexuelle comme nous, on peut l'entendre en tant qu'adulte. Et donc, à la fin, les adultes viennent me voir et me disent « Ah, mais c'était facile, en fait !» Et donc, le retour, c'est souvent ça. C'était « Ah, mais en fait, c'est facile !» Et j'adore ça. J'aime bien l'idée que ça soit facile.
Tout à fait. Comme les grands sportifs ou comme les grands musiciens, ça a l'air facile de loin, mais on serait incapable de l'intérieur de faire comme eux.
On devrait apprendre, en tout cas.
Oui, mais que toi, tu transmettes l'idée que c'est faisable, en tout cas, ça a un bénéfice aussi pour toi, qui ne se sentent plus moldus, en fait, qui se sentent vraiment inclus dans la capacité de transmettre à leur tour des notions sur le consentement, sur les limites, sur le corps, parce que sinon, ce serait toi la seule experte du sujet. Peut-être que tu aurais envie qu'à la maison, ils s'emparent de cette thématique à leur tour et que tu enlèves le tabou, la honte de parler de tous ces sujets.
Complètement. Et souvent, je te rejoins parce que souvent, ce sont des parents qui me disent « Ah, mais je ne sais pas quels sont les bons mots. Je ne sais pas comment en parler, donc j'ose pas le faire. » Parfois, je me dis, en fait, il faut en parler et dire, peut-être parfois dire aux enfants, en fait, là, je ne sais pas, moi, parce que je n'ai pas appris. On va chercher ensemble, en fait. Ça vaut, à mes yeux, en tout cas, pour tous les apprentissages. Pouvoir dire, justement, et se replacer en tant qu'adulte, descendre de ce, parfois, piédestal, où moi, par exemple, j'ai été élevée comme ça, où les adultes avaient vraiment une posture plus haute que les enfants, leur dire « moi, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas tout. J'ai été élevée d'une certaine manière, je ne sais pas tout. Si ça te questionne, en effet, on peut chercher ensemble. Et peut-être que je vais te répondre quelque chose et que j'aurais tort, ça peut arriver. »
Oui, tu disais le choix des mots qui est toujours un peu délicat pour les parents, de poser les bons mots, de ne pas vouloir choquer, de ne pas vouloir donner un mot qu'ils n'ont pas encore entendu, compris ou lu. C'est quand même… En définitive, mieux que le silence et l'interprétation de l'enfant. Quand tu poses des mots sur les parties du corps, quand tu poses des mots sur les actes, sur les risques, sur les dangers, ça fait de la prévention. Est-ce que tu le vois dans ce sens-là aussi, la prévention contre les agressions plus tard ?
Bien sûr, je le vois dans ce sens-là, mais je pense que d'abord, il vaut mieux se questionner en tant qu'adulte. À ce que moi, ça me fait en fait d'en parler. Est-ce que ça réveille des blessures ? Est-ce que je suis à l'aise avec ça ? Se poser la question. Si je ne suis pas à l'aise avec ça, on peut déléguer. Personne n'est parfait ou parfaite. Et donc, si on n'est pas à l'aise, peut-être qu'il vaut mieux déléguer. Et pour soi, et pour ce qu'on va transmettre. Et si on pense qu'on est à l'aise, se mettre en recherche. Et je crois que quand on transmet ce type d'apprentissage, peut-être qu'il vaut mieux commencer par les débuts. En fait, quand on instite, par exemple, c'est exactement ce qu'on fait, ce qu'on appelle la didactique, c'est décortiquer tellement l'apprentissage, c'est revenir au premier geste. Eh bien, c'est comme ça, je pense, qu'il faut répondre aux questions des enfants. C'est réfléchir, OK, au tout début, ça se passe comment ? Et réfléchir à la réponse la plus simple possible. Et on voit si l'enfant prend ou pas cette réponse. Si l'enfant prend cette réponse, super. Il reposera, et si on a répondu à sa question, et qu'il a d'autres questions plus tard, il reposera une question, parce qu'il sait qu'on va répondre à sa question. Et c'est avancé comme ça, en fait, petit à petit. On n'a pas besoin de dire tout. Tout de suite, on n'a pas besoin de cacher des choses non plus. On essaie de décortiquer l'apprentissage, vraiment de reprendre à la toute base. OK, c'est quoi, entre guillemets, la réponse la plus simple ? Et après, on va ajouter des détails si on a besoin. Et si on ne se sent pas capable de répondre tout de suite à la question de l'enfant, on peut lui dire et on peut déléguer. Ça, c'est des choses que je trouve aussi importantes en tant qu'adulte, c'est se dire, bah, là, je ne sais pas répondre à ta question maintenant, je vais faire des recherches ou bien je vais demander l'avis à d'autres personnes. Parce qu'en vrai, c'est pareil pour les dinosaures, hein. Moi, j'adore les dinosaures. Parfois, les enfants posaient des questions sur les dinosaures, je ne savais pas leur répondre. Et j'étais amenée à leur dire, je ne peux pas te répondre maintenant. Je ne sais pas répondre à cette question sur les dinosaures, j'ai besoin de faire des recherches ou j'ai besoin de demander à un expert, une experte sur les dinosaures pour pouvoir te répondre.
Oui, ça va aussi dans le sens de l'éducation en ce moment où toutes les informations sont disponibles en dehors de l'école. Alors qu'avant, l'école était la référence du savoir. Maintenant, en cherchant sur Internet, ils ont accès à plein d'informations. Par contre, le filtre et la manière de présenter l'information, ça va être un peu cru pour certains. Hein. S'ils tapent le mot qu'ils ont entendu à la cour de récré, ils vont pas tomber du tout sur des images ou des vidéos pédagogiques et didactiques.
Malheureusement,
donc, c'est
non.
C'est aussi de la sensibilisation, peut-être en direction des familles, de l'utilisation d'Internet ou des écrans. Est-ce que parfois tu fais ce lien ou pour l'instant tu t'en tiens vraiment à tes ateliers précisément sur les émotions?
En ce moment, je ne fais pas le lien. Peut-être que c'est une fausse croyance, mais parce que je travaille avec des 3-6 ans. Mais peut-être que c'est une fausse croyance, je te rejoins. Peut-être que je pourrais en parler, mais je ne sais pas encore comment. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que je crois que sur Internet, on trouve des très bonnes choses et aussi des choses qui ne sont pas adaptées à l'âge et qu'il n'y a pas toujours les filtres et qu'on n'a pas toujours, les enfants n'ont pas toujours la capacité de savoir reconnaître. En tout cas, ils n'ont pas encore l'esprit critique, ils sont en train de le construire. Et donc, en effet, je pense qu'Internet a plein de côtés positifs, mais je crois que si on répond aux questions des enfants et qu'ils se sentent et elles se sentent accompagnées dans leur apprentissage, alors on peut éviter certaines choses. Et en tout cas, certains, des images qui ne sont pas belles à voir, quoi.
Je me souviens d'une formatrice qui nous proposait de demander aux enfants « Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour affiner, pour ajuster un peu notre descriptif, notre contenu ?» pour ne pas aller trop loin ni trop facile, de se caler sur la connaissance actuelle de chacun des élèves, de chacun des enfants. Et c'est quelque chose que j'applique maintenant tous les jours, tout le temps. Parce qu'en fait, nous, on projette sur l'enfant, sur l'élève, tout ce qu'on sait, nous, sur le sujet, puisqu'on est expert maintenant du sujet, et on va tomber probablement à côté si on ne s'enquiert pas de son niveau de connaissance sur ce sujet-là à lui.
C'est exactement ce que j'ai lu dans plusieurs livres, dont celui de Charline, qui a fait le compte Instagram Orgasme et moi, qui a écrit le livre 120 questions que vos enfants vont vous poser sur la sexualité. C'est ça qu'elle explique, et moi j'adore, c'est ce que j'ai compris, c'est si l'enfant pose une question, d'abord on respire, et ensuite on lui renvoie la question. Qu'est-ce que tu... Ah, et toi, qu'est-ce que tu penses? Donc c'est vraiment ce que tu dis, Séverine, et toi, qu'est-ce que tu penses? Et on écoute ce que l'enfant sait de la question, comme tu dis. Et ensuite, on part de ce qu'on a, nous, entendu, que pour répondre à sa question et peut-être réorienter s'il y a des mauvaises informations et donner des explications s'il y a derrière explications dont on a besoin. Et puis commencer, comme je le disais, l'explication la plus simple et ajouter s'il y a des questions derrière. Et vraiment, ce qu'elle écrivait aussi, c'était ne pas hésiter à déléguer. Ça, je trouve ça super comme conseil.
Donc, il y a à la fois du dosage dans la réponse qu'on apporte et à la fois de la confiance en nous, en tant qu'adultes, pour savoir si on est à l'aise à ce sujet. On a fait une grosse room sur Clubhouse à ce sujet-là, parce que les parents se disent « Non, non, moi, j'ose pas aborder les sujets comme ça, j'attends, on verra plus tard. » Et donc, on a débattu de l'importance de faire ça très tôt et de ne pas attendre la préadolescence où, justement, les hormones et l'affrontement aux parents cumulent, en fait, des obstacles pour que le message se perde et se disperse, alors qu'on est là aussi en prévention et en annonce, en information de tout ce qui pourrait être compris avant l'adolescence.
Et surtout, j'ai envie de dire, c'est très facile en fait. Plus on va s'y prendre tôt, plus ça va être facile parce que plus on va utiliser des mots où on se sent à l'aise. Un exemple, donc les ateliers Coco, c'est pour les enfants de 3 à 6 ans, ils ont été prévus pour ça. Et pendant l'atelier sur le corps et toutes les parties du corps, j'ai fait dessiner deux personnages. Un avec une vulve et un clitoris et un avec un pénis et des testicules. Et je les ai découpés pour faire un puzzle. Et donc, l'idée, c'est que les enfants vont aller chercher dans la pièce les morceaux du puzzle, des puzzles, et on va ramener toutes les pièces du puzzle. Et ensuite, les enfants sont invités à poser les pièces sur les personnages et à citer le nom des parties du corps qu'ils sont en train de poser. Avec les 3-6 ans, souvent les enfants choisissent comme dernière pièce les parties intimes. C'est souvent les dernières pièces. Et je me suis demandé si c'était de la gêne. Enfin, j'ai mis plusieurs hypothèses. Et l'hypothèse que j'émets en ce moment, c'est qu'ils ne connaissent pas en fait le nom des parties intimes. Et donc, en fait, les enfants aiment bien connaître les choses. Donc, ils vont mettre toutes les pièces dont ils connaissent le nom. Comme ça, ils vont pouvoir dire le nom et répondre correctement donc à la question que je leur propose. Et c'est pour cette raison que les parties intimes sont posées en dernier. Et puis, avec une association, j'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants un peu plus âgés. Et là, j'ai remarqué qu'avec des enfants qui avaient 8 ans, là, ça devenait très rigolo. Et là, ça devenait un peu gênant. Et là, on touchait quelque chose que moi, je n'avais jamais touché avec des 3-6 ans, en fait. Dire le mot pénis, dire le mot vulve, dire le mot clitoris. Là, les enfants avaient déjà compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait dans ces mots. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, mais il faut, plus on va en parler tôt, plus ça va être facile. Moins il va avoir cette pudeur, moins il va avoir... Enfin, ça va être simple, quoi. Parce que vraiment, là, jusqu'à maintenant, ce que je sens avec les enfants de 3 à 6 ans, c'est que dire coude ou dire vulve pour eux et elles, c'est la même chose, simplement qu'ils et elles ne connaissent pas le mot. Et donc, j'ai vraiment cette impression que plus on va en parler tôt, plus ça va être simple pour nous en tant qu'adultes. C'est vraiment céder soi-même à mes yeux. Mais après, comme j'ai dit, il faut se sentir à l'aise avec ça. Mais voilà, pour moi, c'est ça là-bas. C'est, plus on va en parler tôt, plus ça va être simple. Parce qu'après, on aura juste un tout petit peu d'informations à amener. Il n'y aura pas toutes ces représentations mentales que les enfants peuvent inventer et peuvent entendre et voir.
On a vraiment eu une room sur Clubhouse à ces sujets-là parce que j'ai un ami, Rémi, qui utilise les vrais mots avec sa fille et qui en parle sur TikTok notamment. Et il a toute une volée de commentaires de haters et de gens mal informés qui lui disent « t'es en train de mettre des mots sales dans la vie de ta fille, t'es en train de lui enseigner des choses perverses et tout ». Donc, il fait front contre ce que toi, pour l'instant, comme les gens sont informés, éclairés, ne viennent pas en ce sens-là. Mais quand on est dans le grand public et quand on veut sensibiliser à cette question, il y a encore une résistance de tous ceux qui voient la sexualité et le plaisir comme quelque chose de honteux, comme un rapport au corps délicat, difficile, lié à l'éducation, lié aux braises éducatives, comme je dis avec ma cheminée. C'est que nous, on a mal vécu peut-être notre démarrage dans la sexualité, notre éducation, les conversations un petit peu compliquées avec nos propres parents quand on était ado, qui maintenant, quand on devient parent d'ado ou parent de jeune enfant, on n'a pas forcément re-questionné, comme tu dis, comment transmettre à nos enfants de la génération 2023 les informations que nous-mêmes, on a reçues un peu à la volée, de manière complètement inadaptée ou sous le manteau. Moi, je lisais des bouquins au supermarché pendant qu'ils faisaient les courses pour avoir des infos. Ce n'est pas des conversations d'adultes qui m'ont appris tout ça. Mais j'ai trouvé une stratégie. Et on évoquait tout ça dans cette room que s'il y a des enfants dans la classe qui disent le mot zizi, il y a des enfants dans la classe qui disent le mot pénis, on peut très bien discuter de tout ça de manière très horizontale. Tiens, chez vous, vous utilisez le mot zizi, c'est un petit nom. Comment tu en parles, toi, pour ceux qui te disent c'est la nénette, c'est la foufoune? Comment tu reprends les vocabulaires fleuris de toutes les familles?
Eh bien, oui, moi, ça m'a paru aussi essentiel, en fait, d'en parler, des petits surnoms. Et ce que je fais, c'est que, donc, dans l'atelier sur le corps, on parle de toutes les parties du corps, dont les parties intimes. Donc, c'est vraiment pas un atelier sur les parties intimes, c'est toutes les parties du corps. Et je cite le nom des parties intimes de la même manière que les autres. Mais j'ai quand même pris un livre, justement, pour parler des petits surnoms, parce que je trouvais ça assez important. Titre, je n'ai pas de zizi, est-ce qu'il me manque un truc? Et à la fin du livre, j'explique aux enfants qu'il y a des adultes qui ne se sentent pas toujours à l'aise avec les noms scientifiques des parties intimes. Je leur dis pour un tas de raisons. Et c'est d'accord. On peut appeler les parties intimes par des petits noms si on préfère, si on en a envie, mais c'est important de connaître les vrais noms scientifiques. De manière à pouvoir dire si on a un problème, de manière à pouvoir citer le nom des parties intimes, vulve, pénis, testicule, anus, parce que ça, j'aimerais bien qu'on en parle aussi de cet anus. Si on a un problème, de manière à ce que tout le monde puisse nous comprendre. Et c'est ça que je leur explique, c'est que les petits surnoms, c'est complètement OK. Mais bah, si on donne un petit surnom, c'est comme les prénoms des enfants. Si on donne un petit surnom aux enfants, bah, tout le monde ne peut pas reconnaître qui est cette personne. Que si on donne le vrai prénom de l'enfant, tout le monde sait qui est cette personne. Bah, c'est pareil pour les parties intimes. Donc, on peut donner des petits surnoms, il n'y a aucun problème. Mais c'est important qu'on sache en tant qu'enfant, et ça aussi, j'adore donner la confiance aux enfants, que eux et elles sachent le vrai nom des parties intimes si à un moment donné, ils ont besoin de parler d'un problème.
De nommer chez le médecin. Donc, c'est un peu factuel, physiologique, médical. Tu en reviens au terme consacré, en quelque sorte, au terme universitaire.
C'est le terme scientifique, en fait. Parce que même pour les mains, on peut donner des surnoms. Enfin, je veux dire, on peut citer plein de surnoms pour plein de choses. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas, c'est important de savoir, oui, les noms scientifiques. Et c'est là où, pour moi, ce n'est pas sale, les noms scientifiques, c'est le nom scientifique. C'est notre représentation d'adulte qui avons décidé que c'était sale. Mais la partie, enfin, le nom, c'est un mot, quoi. C'est un mot scientifique. Il n'a rien. C'est les représentations qu'on met dessus qui sont plus ou moins bonnes à nos yeux en tant qu'adultes. Mais le reste, c'est qu'un seul mot.
Tu utilises des accessoires pour tes ateliers, donc tu as une marionnette, un petit singe. Quel est son rôle exactement? Est-ce qu'il est confident des enfants? Est-ce qu'il est intervenant pour toi, assistant? Comment tu le présentes?
Alors, en fait, la mascotte, c'est quelque chose, je pense, que plein d'instits utilisent. C'est le lien, c'est la manière de créer du lien. Moi, les enfants, souvent, je les vois les maximum 5 fois. Les enfants ne me connaissent pas et on est amené à passer 45 minutes ensemble. Et donc, c'est l'idée d'avoir quelque chose qui peut nous rassembler. Et donc, Ouistiti, la mascotte, elle est là pour les rassurer. C'est très symbolique en réalité. Ouistiti se présente, les enfants vont se présenter à Ouistiti, on chante la chanson de Ouistiti et puis après, Ouistiti va rester à côté de nous. Ouistiti ne fait pas grand-chose en réalité, mais les enfants l'aiment. Souvent, les enfants aiment bien lui dire au revoir. Et les enfants s'attachent aux peluches. Je pense que c'est l'aspect sécurisant.
Et tu utilises des supports aussi? Tu parlais de présentation de livres, d'albums, de comptines. Est-ce que tu veux en donner quelques-uns aux parents qui nous écoutent?
Bien sûr. Dans tous les ateliers, j'utilise des livres et pour les adultes, donc de manière à ce qu'on puisse relire à la maison certains livres et pour les enfants, parce que moi, j'adore le support livre et que je trouve qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses dans les livres. Sur les émotions, il y en a un paquet, je n'ai pas de bons conseils. Moi, j'ai fait le choix d'un livre parce que c'est celui qui me plaît en ce moment, mais il va certainement changer parce que vraiment, sur les émotions, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Sur comment on fait les bébés, j'ai choisi « What Make a Baby », qui est absolument incroyable, qui est maintenant traduit en français dans les éditions Dents de Lion. Je l'ai choisi parce qu'il est coloré, parce qu'il ne parle pas de sexualité d'adulte, parce qu'il est inclusif et je le trouve sympa. Pour les différents types de relations, où je parle là de l'amitié, de la famille, où je parle des adultes de confiance, j'ai choisi « Et toi la famille ?» parce que j'aime les dessins, j'aime les illustrations, je les trouve belles et j'adore l'histoire où c'est des enfants dans une cour de récréation qui veulent jouer à papa et maman. Et en fait, ils se retrouvent avec plein de familles différentes, ce qui fait qu'on voit au travers des pages plein de types de familles qui peuvent exister. Et à la fin, ils se rendent compte que c'est super compliqué de jouer à la famille, donc ils préfèrent jouer à l'école. Et donc, j'ai trouvé ça assez drôle. Donc voilà, j'utilise des livres. J'utilise aussi, comme je le disais, des petits jeux, comme par exemple ce puzzle avec les parties du corps. On fait des rondes. J'ai inventé une chanson pour Ouistiti sur le consentement. Je vais aussi jouer, par exemple, à un jeu de mémoire. Il y a plein de jeux qui sont très faciles à créer et qui amènent à parler d'un sujet. C'est ça que je disais, ça peut être très simple. Par exemple, dans mon jeu de mémoire, ce que j'aime, c'est que c'est un jeu que tout le monde connaît, qui est très accessible et qui permet vraiment de développer du vocabulaire. Donc, on n'a pas besoin de s'attarder à des règles, on est vraiment sur du vocabulaire, c'est fun, ça joue vite. Et donc là, on a un jeu de mémoire avec les mots spermatozoïdes, avec bébé, allaité, enfin tout ça. Et pas mal de rondes, ouais. Moi, j'aime bien les rondes, ça permet de bouger, ça permet de se mettre en mouvement. Dans l'atelier sur les émotions, je fais quelques exercices de sophrologie, pas mal de respiration, où on va imiter comment on fait le dragon pour sortir la colère de notre ventre. Ouais, il faut que ça soit fun et il faut que ça bouge avec les enfants. Il faut à la fois leur permettre d'avoir des moments calmes pour se concentrer et à la fois de le vivre avec le corps, de mimer, de ressentir. Je fais écouter des musiques pour voir ce qu'on ressent.
Ça doit donner envie à tous les parents là, de venir voir tes ateliers. Alors, pour l'instant, tu es sur Marseille. Est-ce que tu as des projets de diffuser ces informations un peu plus loin? Quelles sont tes intentions sur ces ateliers Cocose?
Moi, je suis une voyageuse, alors oui, bien sûr. Oui, avec plaisir. En réalité, j'ai commencé par Marseille parce que je vis ici et que c'est par facilité de commencer ici. Mais moi, j'ai envie de les tester dans plein d'endroits différents. Donc, je suis complètement ouverte à bouger et à rencontrer le maximum d'enfants et de parents et qu'on puisse ensemble vivre ces moments-là.
Moi, ça me donne envie de venir, en tout cas. Voir un de tes ateliers, ça, c'est clair et net.
Ce serait chouette, ce serait rigolo. Je suis très curieuse d'avoir ton avis, en tout cas.
Et les enfants font les 5 séances, du coup, le cycle complet. À la fin du cycle, est-ce que tu as un nouveau rendez-vous avec les familles pour comparer un peu le avant-après? Comment tu procèdes par rapport à la progression, à l'évolution?
En fait, dans un premier temps, je voulais en effet que les enfants fassent un cycle de 5. Et puis en y réfléchissant, j'ai fait le choix de ne pas obliger à faire le cycle de 5 en réalité. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment. Je touche les enfants de 3 à 6 ans, donc les questions ne sont pas les mêmes pour tous les enfants au même moment, ouais. Et puis parce que les adultes se sentent parfois plus ou moins à l'aise avec certains sujets. Et c'est pour ça que parfois, si on se sent super à l'aise avec un sujet, on n'en a peut-être pas besoin. Si on ne se sent pas à l'aise avec un sujet, peut-être qu'on n'a pas envie d'en parler. Et donc, je laisse vraiment l'opportunité. En fait, je fais confiance aux gens. Si les personnes pensent qu'elles ont besoin des 5 ateliers ou qu'elles ont envie de participer aux 5 ateliers, ils ont été créés comme un bloc. Mais on peut faire le choix de participer à 1, 2, 3, peu importe en fait. Et les retours, c'est vrai que quand des personnes participent aux 5 ateliers, moi, je trouve que c'est le plus fun parce que j'apprends à connaître les enfants au fur et à mesure. Les enfants me parlent de la séance précédente. J'ai le retour des adultes où on me précise des choses. Et ça, c'est vrai que c'est très chouette pour moi. Après, non, j'oblige pas. Et par exemple, dans les maisons pour tous, souvent, on m'appelle pas pour les 5 ateliers. On m'appelle pour 1, 2 ou 3 ateliers précis en fonction des besoins à ce moment-là dans l'endroit. Et je trouve ça sympa, en fait.
Celui qui est le plus demandé, là, pour toi, ça a l'air d'être lequel?
En ce moment, c'est le consentement.
Le consentement?
Je pense que c'est une question qui est fort soulevée sur Internet, dans les médias, etc. Et c'est quelque chose qui, je crois, inquiète, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, qui questionne les adultes en ce moment. C'est celui qui attire le plus de foule, dirons-nous.
Oui, ce qui est lié aussi à la peur pour nos enfants, ce qui est lié à la peur et l'envie de les protéger au mieux, de les préparer au mieux. C'est quelque chose de délicat pour les parents, de s'imaginer que notre enfant ne saurait pas réagir à une situation avec une personne mal intentionnée ou dans un comportement délicat.
Oui, c'est ça. Comme je disais, je suis persuadée que les adultes veulent le meilleur pour les enfants. Et donc, je pense que c'est ce qui fait le plus peur en ce moment. Et donc, c'est ce vers quoi on est le plus attentif.
Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager d'un des participants enfants? Est-ce qu'il y a une phrase que tu n'avais pas vu venir et qui t'a fait « Oula !»
En fait, il y en a déjà pas mal. J'aimerais en parler de deux. Une première chose, c'est des enfants qui sont venus à plusieurs... En fait, j'ai envie de parler de plein de choses, mais je vais vraiment m'attarder à ces deux-là. C'est l'attention à l'anus. J'en parlais juste avant parce que j'ai vraiment envie de le préciser. C'est que pour moi, l'anus, en fait, je ne m'y étais pas super fort attardée dans mes ateliers. Je le citais, etc. Et en fait, j'ai eu un retour d'un enfant qui a réalisé pendant l'atelier qu'en fait, tout le monde avait un anus. Et je me suis dit, ça fait partie de ces choses qu'en fait, on ne dit peut-être pas aux enfants et qui paraissent évidents, en fait, à mes yeux d'adulte. Et apparemment, je l'ai dit pendant l'atelier. Et la fois suivante, l'enfant est vraiment revenu près de moi et m'a dit, « Ah oui, et les filles ont un anus et les garçons ont un anus. » J'étais oui, voilà. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonnée. Et la deuxième chose que j'ai vraiment adoré, c'était la première fois que j'ai animé « Comment on fait les bébés ?». C'était quand même un moment assez stressant pour moi, déjà parce que je présentais des nouveaux ateliers. C'était la première fois que je le faisais. Et en fait, quand j'ai montré la planche dans un livre où on voit le corps de la personne qui porte le bébé qui change et le bébé à l'intérieur qui change aussi, et donc je fais le rapport entre le corps, il change pendant toute la vie. En fait, les enfants se sont attardés à la coupe de cheveux de la personne qui porte le bébé sur la page. Et donc, je me suis dit, à la fin, j'ai trouvé ça très drôle. Je me suis dit, tu t'imagines que tu as stressé en tant qu'adulte sur les phrases choquantes que pourraient dire les enfants. Et les enfants en face de toi t'ont expliqué que ce qu'ils voyaient, c'était que les cheveux de la personne qui porte le bébé poussent. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis remise à ma place d'adulte en... Voilà, ça, c'est les enfants. On leur parle d'un truc où nous, on met une importance énorme et eux peuvent voir quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on s'imaginait.
Et dans la pertinence et dans la lucidité, d'ailleurs.
À fond, parce qu'en fait, ça avait complètement rapport avec ce que je disais. Hein. J'expliquais que le corps changeait pendant toute la vie. Les cheveux sont une partie du corps et ça pousse. Voilà. Mais je n'avais pas vu et je n'étais pas prête.
Je comprends. J'ai ce même lien avec les mamans que j'accompagne et puis en classe aussi, quand j'avais les enfants de 2 ans, de partir des fonctionnalités physiologiques du corps, comme tu l'as dit. Nous, on parlait de l'anus quand on parlait du pipi et du caca parce qu'il y avait des enfants qui pensaient que ça sortait du même endroit. Donc, en fait, expliquer ça, ça paraît tellement simple quand ils sont tout jeunes, quand ils sont à la transition de la continence, quand ils ont encore la couche, quand ils passent sur les toilettes, on peut très bien leur expliquer que non, il y a des orifices différents, qu'il y a des fonctionnalités différentes qui s'appellent justement par un nom différent et on n'en fait pas tout un sac autour de la sexualité. On en fait aussi un thème d'élimination, d'évacuation, de l'urine, des selles et tout. Et ça devient scientifique, biologique, des termes « normaux » entre guillemets. On n'est pas habitué à parler aux enfants d'anus, en effet.
Ben, en tout cas, ça ferait écho dans la tête des adultes sur des choses que j'avais l'intention de parler, en tout cas.
Eh oui. Oui, oui, et puis c'est une des thématiques, bien entendu. Tu ne fais pas un atelier autour de l'anus. Imagine la promotion ou l'affiche des ateliers sur ces sujets.
Absolument pas.
C'est ça.
C'est une phrase comme ça sur l'anus dans tous mes ateliers. C'est quelques mots, en tout cas, sur 45 minutes.
Ça n'a pas l'enjeu qu'on croit que ça a.
Et non.
Sur les retours des gens qui n'ont pas participé encore à tes ateliers, est-ce que parfois tu as des phrases un petit peu piquantes ou des questionnements, genre, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que c'est que ce thème? Ça, de notre époque, il n'y avait pas ça. Tu vois, des gens qui passeraient devant la librairie, qui verraient tes propositions. Est-ce qu'il y a eu des retours un peu désagréables de ton côté?
Oui, mais je pense que c'est surtout les sujets. En fait, moi, je crois qu'il y a toujours des personnes qui ne seront pas d'accord, qu'il y a toujours des personnes qui critiqueront. C'est comme ça. On ne fait pas avancer le schmilblick si on s'arrête à ça. Et si c'était parfait comme c'est fait maintenant, bah, ça saurait. Donc oui, bien sûr, il y a toujours des personnes qui pensent que c'était mieux avant, qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça, mais c'est comme ça. J'ai pas envie de dire que ce que je fais est le meilleur, c'est juste que moi j'y crois, et que s'il y a des personnes qui y croient aussi, bah, faisons-le, et celles qui y croient pas, bah, c'est pas grave.
Tu fais ta petite pierre à l'édifice, tu fais ta part de colibri dans cette transmission d'informations.
Oui, après, tout en gardant en tête qu'il y a des droits des enfants et qu'un des droits des enfants, c'est un droit à l'apprentissage. Donc ça, j'y fais attention. Mais en tout cas, je me bats pas contre tout le monde, en tout cas.
Je trouve que ça a 4 avantages différents, hein, parce que tes ateliers, pour les élèves, c'est indéniablement une source d'information. Donc si je me mets du côté des enfants, c'est une transmission de qualité explicite au lieu de l'implicite de cette thématique. Pour les parents, bah, ça peut les soulager parce qu'ils sont là en renfort et ils sont pas là en initiateur de la conversation délicate. Hein, et je mets des guillemets parce que pour certains, ça peut être fluide et pour d'autres, ça peut être délicat. Pour les organisateurs, bah, ils ont une experte, ils ont une intervenante qui est formée, qui a réfléchi, qui a établi un plan pédagogique, une intention. Et puis, bah, pour la société, tu crées quand même une génération qui sera moins confrontée à une sidération de gestes déplacés ou qui pourra s'imposer dans la société au niveau égalité filles-garçons, préciser que c'est pas très juste que cette fille-là, elle soit pas choisie pour ce poste-là. Est-ce que tu vois aussi l'ampleur sur ces 4 thématiques de tous les bienfaits de tes ateliers?
Bien sûr. En fait, j'ai écrit un plaidoyer pour en parler aux élus de Marseille, d'ailleurs, parce que c'est vrai que peut-être que dans
génial.
Le podcast, On n'entend pas parce que j'en parle parfois de façon très légère, mais j'y crois profondément en fait. J'y crois parce que mon intention première, c'est la défense des enfants, c'est protéger les enfants. Et c'est vrai que je pense que j'en parle souvent de façon très légère et j'ai envie que ce soit de l'éducation à la vie affective et sexuelle positive. Et donc, j'ai pas envie de faire peur aux enfants. Mais c'est parce que je crois qu'une partie de moi a peur pour eux. Et je suis persuadée qu'en retirant les tabous, qu'en mettant les mots, les vrais mots, on va leur donner confiance en eux et en elles, qui vont se sentir forts et forts, qui vont pouvoir se défendre, qui vont pouvoir savoir qui ils et elles sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, dire non et se sentir légitime de dire non, de faire des choses qui leur font du bien, leur donner des clés en fait. Et peut-être ouais, que je parle de légèreté, peut-être ça c'est comme ça, mais l'intention en fait, elle est vraiment profonde.
On avait parlé beaucoup du plaisir hein, dans l'épisode où tu m'avais interviewée. Que la question du plaisir, leur accorder le droit au plaisir pour maintenant, pour la vie future, se re-questionner, nous, en tant qu'adultes, sur notre droit au plaisir. Alors, sans parler de sexualité, hein, sans parler forcément, mais est-ce qu'on n'a pas oublié un petit peu que notre vie, on pouvait peut-être se faire plaisir au quotidien, même dans le lien avec nos enfants, dans le lien des enfants entre eux, de ne pas voir le mal partout, d'être vigilant, mais d'être aussi dans la connexion aux autres, dans l'humilité qu'on a tous des moments où on est bien au niveau émotionnel. Ben, on peut être amis et puis le lendemain se disputer, on peut être en couple et se séparer. Tous ces mouvements de la vie qui ne sont pas toujours décrits aux enfants. On avait évoqué ça en atelier philo hein, aussi, parce que je pense que tu dois avoir des remarques que j'avais entendues en atelier philo quand tu fais tes ateliers avec les petits loulous. C'est génial en fait de les entendre. Est-ce que toi, quand tu les entends parler, tu as ce moment de oh, « mais si tout le monde pouvait voir ça, tu n'as pas envie de filmer des fois pour que tout le monde voit ce que tu vis ?» Ça me connecte à tout ce que j'ai vécu moi en classe en atelier philo.
Bien sûr, pour que les adultes justement… que tu disais, pour que ces adultes qui ont peur, leur dire, en fait, pour les enfants, c'est léger. Et vraiment, j'aime bien que tu précises ça, qu'en fait, c'est quelque chose que moi, j'explore dans l'atelier sur les relations, qu'en fait, dans les relations avec les autres, elles changent, elles bougent, qu'il n'y a rien qui est écrit, mais qu'en tout cas, le plus important, c'est de prendre soin de soi et de se faire confiance, et de se faire confiance et d'apprendre à s'écouter. C'est ça, en fait, c'est vraiment travailler ses émotions pour savoir ce que j'aime pas, accepter que parfois on puisse ne pas aller bien, avoir des émotions nuages, chercher à aller mieux, mais accepter que parfois ça va pas, connaître les parties du corps justement pour pouvoir se faire soigner, se soigner, poser des limites. Et en fait, ça, c'est déjà le consentement, parce que le consentement, c'est facile. Mais si on ne sait pas ce qu'on n'aime pas, on ne peut pas dire oui ou non, en fait. Si on ne connaît pas les limites de certaines parties du corps, bah, pareil, hein, le consentement, c'est compliqué. Ouais, je pense vraiment qu'il y a cette attention à porter sur, mais comme tu dis, hein, et chez les adultes et chez les enfants, sur soi et se faire confiance.
Et que quand eux, ils se connaissent bien, ils sont plus à même de tisser des relations équitables, horizontales, de qualité, saines.
Ouais, je suis sûre.
C'est une chouette mission que tu t'es donnée à toi. Je suis ravie pour tous les enfants qui vont vivre tes ateliers, pour toutes les familles et pour tous les organisateurs. Moi, je suis absolument fan de ton travail et je suis très contente qu'on soit en lien sur ces thématiques-là parce que, voilà, qui sait, un jour, on pourra peut-être co-animer quelque chose ensemble sur les tout-petits. Est-ce que de la tranche 3-6, tu envisages peut-être de faire la tranche d'après ?
Eh bien, peut-être que j'envisage celle d'avant. En fait, j'envisage et celle d'avant, du 0-3, parce que je me dis peut-être qu'il faut encore exploiter plus tôt. Et celle d'après, je crois que je vais être amenée à le faire parce que la société préfère que je parle de celle d'après. Mais 3-6, c'est important pour moi parce qu'on n'en parle pas. En fait, c'est une tranche d'âge qui est peut-être parfois un peu oubliée, enfin trop oubliée à mes yeux. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je me concentre essentiellement sur celle-là. Mais en effet, je pense que je vais exploiter d'autres tranches d'âge. Mais là, c'est vraiment important pour moi de passer le message. N'oublions pas les 3-6 ans, en fait. C'est des enfants qui sont incroyables, qui sont déjà très, très intelligents et en fait, à qui on peut parler, qui nous écoutent.
Les conversations que j'ai eues avec les 2 ans de ma classe du dispositif des moins de 3 ans étaient incroyables aussi. Du moment où ils ont une connaissance de leur corps, une conscientisation de leur corps, Et il commence à se rendre compte de ce qui fait bien, de ce qui fait mal, de quand on se cogne, quand on tombe. Et de dire aux parents que c'est une découverte naturelle, de guider les parents sur le fait que ben, ils sont en train d'apprendre à connaître leur corps et que les parents peuvent être un renfort pour accentuer cette connaissance de soi. Donc, la tranche 0-3 ans, oui, moi, je serais aussi hyper intéressée de voir comment tu vas l'attaquer plus tard sur tes ateliers 2.0 quand tu seras à la tranche 0-3 ans.
Ouais, là, c'est en cours de création.
Donc là, tu vas te dédier à plein temps à ces ateliers-là. Comment tu vois ta vie dans les 2 prochaines années?
Comment je rêve ma vie, tu veux dire? Mmh. Ouais, faire ça professionnellement à 100%, ouais. Après, je ne sais pas si ça se place dans la société actuellement, mais c'est là où j'ai envie de mettre mon énergie en ce moment, en tout cas.
Donc, tu installes des petites graines un petit peu partout en créant un peu l'éveil de conscience sur cette thématique-là?
J'en parle le maximum, c'est ça. Et puis, on verra, ça prend pas. Mais en tout cas, ouais, là, en ce moment, ma mission, c'est d'en parler.
On peut peut-être proposer déjà à chaque parent qui nous écoute aujourd'hui d'envoyer l'épisode à une personne qu'il connaît et qui serait peut-être concernée par la tranche entre 0 et 6 ans déjà dans un premier temps. Et puis, voir après s'ils veulent te contacter sur ton site. Il y aura tous les liens en descriptif. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être 3 conseils pour les familles qui nous écoutent pour appréhender ce thème, pour mettre déjà une petite graine dans la conscientisation de soi, de son corps, de ses émotions? Comment est-ce que tu pourrais proposer aux parents de s'initier?
Alors, de manière très concrète, je dirais que le premier conseil, c'est de chercher, si on ne connaît pas les noms scientifiques des parties intimes, et puis d'en parler dès le départ. Et si on n'en a pas parlé dès le départ, bah, déculpabiliser et essayer de dire aux enfants les vrais noms scientifiques de toutes les parties du corps. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, je m'y suis pas mal attardée à ces parties, à ces noms scientifiques. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est s'aider de livres. Il y a des livres absolument merveilleux, fabuleux. C'est des super outils, que ça soit pour lire avec notre enfant, pour laisser à notre enfant, pour lire. Moi, je conseille toujours de lire un livre quand même avant de le transmettre à l'enfant et de dire à l'enfant, j'ai lu ce livre. Et ça, c'est peu importe l'âge. J'ai encore lu un super livre pour les ados et je me dis, mais waouh! Si mes parents m'avaient donné ce livre en me disant « J'ai lu ce livre, je l'ai acheté pour toi, lis-le », ça ouvre aussi la conversation. Mmh. Donc ça, c'est vraiment mon deuxième conseil. Et le troisième conseil, j'aimerais alors réfléchir à quelque chose de très concret. Se faire confiance en tant qu'adulte et se questionner. Parce que si on se fait confiance et qu'on se questionne en tant qu'adulte, on va laisser la place aux questions des enfants. Ouais, ça, c'est mes 3 conseils, je crois.
Ah, super. Laisser traîner des livres, à la prochaine douche, on dit les vrais mots du corps, et puis s'interroger sur notre position face à ces sujets-là pour laisser de la place au questionnement de nos enfants, de nos ados aussi, des gens autour de nous. Est-ce que tu dirais qu'aller voir la maîtresse pour proposer ces thèmes-là, c'est d'actualité ou laissons faire aussi les enseignants? Tu aimerais que dans les écoles, peut-être, ça avance, toi qui as été enseignante aussi?
Oh, je suis toujours partagée. J'ai une grande admiration pour le métier d'enseignant, enseignante. Je suis partagée par rapport à ça. Je crois qu'il faut être doux et douce envers les professionnels de l'éducation qui sont dans les écoles et qui n'ont pas toujours toutes les possibilités qu'ils ou elles voudraient. Franchement, je ne sais pas, Séverine, répondre à ta question. Je pense qu'il faut, une fois de plus, écouter ce qu'on pense le mieux et être bienveillant et bienveillante. C'est ça, surtout, je pense. Je sais jamais comment les personnes en face peuvent prendre le fait de conseiller quelque chose. Si on se sent assez à l'aise et si on sent que la conversation est ouverte, bien sûr, ça peut être super chouette de conseiller un livre ou de dire « Ah, moi, je me sentirais à l'aise si vous parliez de ça avec les élèves. Mais » Mais voilà, je pense que ça, c'est du cas par cas. Mais il faut être bienveillant, en tout cas.
J'imaginais l'enfant de 3 ans qui arrive à l'école avec un des livres que tu as cité en disant « On va lire ça aujourd'hui, maîtresse, on va lire ça. » Et l'enseignant dire « Oula, oulala, oulala. »
Ça, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Qui on va avoir sur le dos après?
Ouais.
On en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait ensemble. Moi, c'était pas du tout les élèves qui m'inquiétaient. J'avais envie de tout leur donner. Mais après, les réactions des parents, il fallait nous, en tant que professionnels, se dire « Je sais pourquoi je le fais. » Je sais que l'intention est bonne et que oui, si des parents ne sont pas contents, sont déçus, voient les choses autrement, ben ça va être à moi de réexpliquer, de reformuler l'importance, les bénéfices, de parler de ces sujets dès la maternelle Et ça, on s'était quand même bien trouvé sur le sujet. Hein.
C'est ça. Et après, c'est pour ça en fait que les programmes peuvent être utiles. C'est pour pouvoir se retomber sur nos pattes avec quelque chose d'écrit, se sentir soutenu dans ce qu'on fait. Et ça, c'est pas partout et c'est pas tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, il faut quand même être bienveillant et bienveillante. On n'a pas toujours la possibilité de faire tout ce qu'on veut en tant qu'instit.
On verra ta petite plaquette au ministre de l'Éducation en Belgique et en France.
J'y compte bien.
Rendez-vous dans quelques années quand Alison sera déléguée au ministère de l'Éducation en France ou en Belgique.
Non, c'est pas gagné, mais en tout cas, je ferai mon maximum pour que ça fasse son bout de chemin.
On va faire notre part, hein, pas à pas.
Exactement.
Donc, vous pouvez retrouver Alison sur Instagram, sur Facebook, vous tapez maternelle dégenrée. Et sur son site aussi. Je te laisse le petit mot de la fin, Alison. Je te remercie en tout cas pour ta participation à ce podcast. J'étais ravie de t'interviewer.
Merci beaucoup, Séverine. Et prenez soin de vous. Faites-vous confiance. Au revoir, Séverine.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite !